Nous avons parlé hier de la miséricorde de Dieu. Hein, cela nous fait du bien de nous apercevoir que Dieu nous aime, quoi que nous ayons fait. Et il a un cœur débordant, vous l'avez saisi, qui est, par comparaison, ce qu'avaient déjà compris les Hébreux, c'est viscéral, comme une mère, son enfant, c'est... voilà. Hein. Nous, les hommes, on ne peut pas savoir, mais avoir un enfant de 9 mois qui grandit dans le ventre, c'est viscéral, quoi, son gamin, c'est... Alors donc, le cœur de Dieu est comme ça. Mais si nous découvrons que ce cœur de Dieu est comme ça, quoi, qu'il, vraiment, il veut notre bonheur, il veut notre vie, il veut notre épanouissement, à ce moment-là, ben, on s'est dit, ben, nous aussi, on veut partager ce type d'amour, devenir aussi miséricorde, on pourrait dire en acte, nous aussi être transformés en miséricorde. Et donc, la conversion, notre conversion, on ne peut pas s'arrêter au fait qu'on découvre que Dieu est miséricorde et qu'il nous aime, mais nous aussi on a envie de devenir miséricorde en acte, de devenir miséricordieux et dans le fond de donner, il n'y a que la femme qui peut savoir ce que c'est que donner le sang de son corps pour construire un gamin, mais le sang de notre âme, nous sommes tous appelés à le donner aussi. Sinon, il y a une part, nous percevons de façon confuse, qu'il y a une part de nous-mêmes qui n'est pas livrée à Dieu et que nous devons devenir, puisque nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes les frères du Christ, nous sommes appelés à rentrer nous aussi dans la profondeur de ce mystère de donation totale de nous-mêmes à Dieu. Et bon, vous tous qui êtes ici, bon, je constate avec admiration tout ce que vous faites dans les paroisses. C'est parce que vous percevez en vous-même qu'on ne peut pas rester comme ça béatement à recevoir l'amour de Dieu, mais que nous-mêmes, nous devons nous donner totalement. Il n'y a que dans la mesure du reste où nous nous donnons totalement, où nous nous offrons pour être aussi miséricorde en acte, que nous percevons de façon confuse, qu'il n'y a que là que nous pourrons recevoir aussi et comprendre la plénitude de l'amour de Dieu. Donc la miséricorde, dans un premier temps, nous la découvrons parce que nous la recevons de Dieu, et dans un second temps, on pourrait dire aussi que c'est la mission de la Vierge qui nous pousse à devenir miséricorde en acte. Et comme disait le père Grignon de Montfort, elle est la confiture des croix. Une expression surannée d'un autre âge, mais c'est elle qui nous fait percevoir et qui nous conduit à rentrer dans le sacrifice. Marie ne nous évite pas les croix. Elle nous accompagne puisqu'elle-même l'a vécu intérieurement en étant au pied de la croix, en étant complètement déchirée, puisque le vieillard Siméon lui avait dit qu'un glaive lui transpercerait l'âme. Elle sait ce que c'est et elle voit la beauté de ce mystère qui est aussi, pourrait dire, la profondeur du mystère de l'Église et de fécondité de l'Église qui ne peut avoir lieu que dans l'offrande profonde de nous-mêmes. Et donc, c'est ce que dit Paul, par exemple, en Corinthiens 12:2, en la lettre aux Romains 12:2, « Revêtez-vous des sentiments du Christ », ce qui n'a rien de sentimental. C'est-à-dire, revêtez-vous très exactement des mouvements profonds de son cœur d'offrande, de son cœur de miséricorde. Sachez donc reconnaître ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. Et il rajoute, ce qui est extraordinaire, « Voilà pour vous l'adoration véritable. » Bien faire attention à ce mot, parce que souvent nous avons un esprit réductionniste qui réduit l'adoration à l'adoration du Saint-Sacrement. Et la véritable adoration, comme le dit Paul là, c'est vraiment d'être livré pour être miséricorde en acte, qui dépasse totalement le cadre de l'adoration du Saint-Sacrement. L'adoration du Saint-Sacrement doit nous conduire à cet état d'âme. C'est quelque chose d'absolument fou. Nous rentrons dans les sentiments du Christ. Et c'est bien ce que veut dire le mot adoration. Le mot adoration ne veut pas dire regarder une hostie dans un bidule doré, qu'on appelle un ostensoir. Adorer, littéralement, ça veut dire d'être ad, au-delà, auré de la parole. En d'autres termes, un terme du vocabulaire courant, c'est être bouche bée devant ce mystère d'amour. Donc vous voyez, ça dépasse largement. Je ne veux pas dire qu'il ne faille pas faire l'adoration de Saint-Sacrement, parce que c'est vraiment une heure passée en relation avec Jésus, à travers la vision de l'hostie, mais toute notre vie devrait être une adoration. On est pris dans ce mystère d'amour qui nous demande aussi d'être, nous aussi, amour en acte, c'est-à-dire amour donné, offrande de toute notre vie. Voyez jusqu'où va le mouvement de conversion. Hier, on voyait ce qu'était cette miséricorde de Dieu, cet amour viscéral qui ne peut pas supporter que nous nous perdions et qui va jusqu'à offrir sa propre parole, qui prend notre chair, notre condition humaine. Et nous aussi, nous sommes appelés à rentrer dans ce mystère d'amour. Et si nous ne rentrons pas dans ce mystère d'amour en étant offrant de nous-mêmes, il y aura toujours une part de nous-mêmes qui sera protégée et qui, dans le fond, n'a pas confiance totale en Dieu et qui vise, plus exactement, à un amour égoïste dont nous sommes les victimes parce que cela est mortel. Donc nous comprenons, au fur et à mesure que notre vie chrétienne se déploie, la nécessité de devenir, nous aussi, offrande. Et voilà la parole que j'ai souvent citée d'Élisabeth de la Trinité, s'adressant à l'Esprit de Dieu, que je lui sois une humanité de surcroît, du Christ, afin qu'il renouvelle en moi tout son mystère. Devenir une humanité de surcroît. Et là, on touche à la profondeur du mystère de l'Église. L'Église, ce n'est pas des institutions qui tournent, ce n'est pas une quantité de personnes qui viennent à la messe. Mystère de l'Église, c'est le corps du Christ. Et si nous sommes le corps du Christ, nous sommes appelés à rentrer tous qui que nous soyons, à travers ce qu'il nous demande, dans ce mystère d'oblation, qui nous fait découvrir aussi la profondeur et la beauté du mystère de l'amour. Et quand on est jeune, souvent nous avons une idée de l'amour qui est très égoïste. On veut se marier, mais à travers ce mariage aussi, vous savez bien ce que c'est que la vie de couple. Hein, combien de fois il faut remettre sur l'ouvrage cette vision de l'amour que l'on a. C'est sûr que dans les premiers temps, l'amour physique c'est très exaltant, puis ça doit aller toujours plus loin, plus loin, plus loin. Hein. Le Seigneur sait ce qu'il fait à travers le corps et le psychisme qu'il nous donne. Il veut entraîner toujours plus loin dans l'amour. On ne peut pas s'aimer à 80 ans comme on s'aime à 20 ans. Mais donc, le Seigneur permet aussi toutes ces épreuves de vie pour purifier cet amour qui, en fin de compte, arrive dans nos vies à ce stade d'un amour oblatif. Il n'y a pas de plus grand plaisir, enfin de plus grand bonheur que de donner sa vie pour ce qu'on aime, dit Jésus. Donc, il y a bien une réalisation de notre être total, plaigné en Dieu de vie éternelle, qu'à travers le don de nous-mêmes, qui va se réaliser forcément de façon différente, puisque nous sommes tous différents les uns des autres, à travers chaque personne et à travers chaque vocation, que ce soit une vocation à la vie de couple, que ce soit une vocation à la vie consacrée, dans le clergé diocésain ou dans la vie religieuse, dans une vie même totalement cloîtrée, ça doit toujours aboutir à cet amour oblatif qui est la seule voie, hein, la croix est le passage unique vers ce monde où toute chose est consacrée. Alors évidemment, on ne peut pas dire que sensiblement cet amour oblatif nous comble. Mais seulement nous découvrons des joies en Dieu qui dépassent largement, on pourrait dire, les douleurs sensibles, les douleurs affectives et toute forme de souffrance qui touche notre être physique et psychique. Et pour finir, comme dit Jésus, combien il me tarde que cette heure soit arrivée. Alors que nous savons bien, à Gethsémani encore, il est pris dans les angoisses de ce sacrifice. Et donc, nous entrons dans cet amour oblatif. Alors je vous cite là un certain nombre de citations. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme, sortez des rangs. Je vous supplie de me consumer sans cesse, déverser en mon âme les flots de votre tendresse infinie, afin que je vive, ô mon Dieu, le martyr de votre amour. Ça, c'est l'acte d'offrande de la petite Thérèse. Et je vous promets que si vous dites avec la vérité du cœur cette prière tous les jours, le Seigneur va vous prendre au mot. Et voilà, vous savez que dans l'Ancien Testament, il fallait que l'agneau de l'Holocauste soit parfait. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois qu'ils ne donnent jamais l'agneau parfait. C'est des bons paysans, quoi, dans le fond, ils sont pas fous. Hein. L'agneau parfait, c'est pour le manger ou pour le vendre au marché. Quoi. Les paysans ont les pieds sur terre. Mais voilà, il faut qu'il y ait cette perfection pour l'Holocauste. Et donc, si vous dites cette prière, dans la vérité de votre cœur, vous êtes quasiment certain que dans les jours qui vont suivre, il va vous envoyer des purifications au niveau qui est le moins attendu. Parce que si c'était attendu, on pourrait parer les coups. Et là, on est vraiment sans défense. Et c'est des choses qui sont certainement très désagréables, mais qui chaque fois, une fois qu'on est passé à travers, ça c'est dans le secret du cœur, hein, pas besoin que les autres le voient, ça va ouvrir vers un espace vital en Dieu encore plus vaste. Et là, nous comprenons, moyennant, cette prière est excellente, hein, elle marche, je vous dis, à tous les coups. Ça nous ouvre vers des espaces de Dieu insoupçonnés, des espaces d'amour, et nous comprenons, à ce moment-là, nous commençons à rentrer dans cette dynamique, on pourrait dire, sacrificielle. Nous découvrons un amour qui dépasse tout, nous comprenons qu'il faut passer par là, à travers ces purifications, et ça nous fait désirer aussi, petit à petit, à rentrer dans ce mystère de la croix. Pardon ? Alors, je m'offre à votre amour miséricordieux, comme victime d'amour, hein, pas comme victime de souffrance, victime d'amour à votre miséricorde. Je vous supplie de me consumer sans cesse, déverser en mon âme les flots de votre tendresse infinie, afin que je vive, ô mon Dieu, le mystère de votre amour. Cet amour qui sauve. Hein? Alors ça, je ne sais plus si la prière numéro 5 ou numéro 6 de la petite Thérèse, qui s'appelle l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. C'est une prière qui peut rapporter gros, mais qui fait passer obligatoirement, puisque l'agneau de l'Holocauste doit être purifié, qui fait passer obligatoirement par des purifications intérieures. Mais qui fait découvrir, cette prière fait découvrir profondément ce qu'est l'amour du Christ. Et qui nous éloigne très fortement de tous ces gens, de toutes ces personnes qui, dans le fond, se cramponnent à des perceptions sensibles du bon Dieu, qui caressent suivant le sens du poil, mais qui, pour finir, ne dépassent pas la sphère de notre sensible et nous empêchent de découvrir cet amour fort. La saveur forte. Vous savez, on citait Saint Paul, il vous dit, voilà, je vous ai traité comme des enfants avec du lait. J'étais pas en capacité de vous donner encore une nourriture d'adulte. Mais c'est ça, cette nourriture d'adulte, c'est cet amour fort auquel le Seigneur veut nous convier. Alors, il ne faut pas avoir peur de notre incapacité, parce que vous l'avez compris hier, c'est justement là, dans notre faiblesse, qu'il vient nous chercher, en bas. Ce qui fait que nous devons apprendre une docilité à l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie, elle, qui a été docile à l'Esprit, hein, première parole rapportée, c'est celle de l'Annonciation, qu'il me soit fait selon sa parole. Vous voyez, cette docilité à l'Esprit, pour que... Et Marie est l'éducatrice. puisqu'elle, elle a toujours été docile à l'esprit, elle est l'éducatrice de l'esprit. Alors, je vous cite, là, je vous dis que j'allais vous donner des textes, pour éviter de relire des citations. Je ne peux pas dire que j'aime la souffrance en elle-même. Oui, sinon, il faut aller voir un psychiatre. Hein. Mais je l'aime parce qu'elle me rend conforme à celui qui est mon époux et mon amour. Oh, vois-tu, cela met dans l'âme une paix aussi douce, une joie si profonde, et on finit par mettre son bonheur dans tout ce qui est contrariant. Petite maman, cherche à mettre ta joie, non pas dans le sensible, mais la joie de ta volonté dans la contrariété, tout sacrifice, et dites au maître, je ne suis pas digne de souffrir cela pour vous, je ne mérite pas cette conformité avec vous, tu verras, cette recette est excellente. Élisabeth de la Trinité, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, à sa maman qui, voilà, qui avait des souffrances de vieillesse. Et parole que j'ai trouvée, vous avez aussi des textes concernant sur le site de Lourdes, puisque c'est le thème de l'année, et il donnait une parole de Paul Claudel, sans référence. Le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, mais l'habiter de sa présence. L'habiter de sa présence, et donc lui donner à la souffrance, on pourrait dire, ce sens rédempteur et exaltant de l'amour oblatif.
Alors, le Christ n'est pas venu expliquer
la souffrance, mais l'habiter de sa présence. Ça fait l'horaire imparti, là. J'ai assez parlé. Non, je ne sais pas. C'est pas assez
chanté.
Encore une autre parole d'Élisabeth de la Trinité. C'est dans le ciel, dans la foi. Encore?
Tu peux y aller.
Encore, d'accord. Une louange de gloire. C'est une âme qui demeure en Dieu, qu'il aime d'un amour pur et désintéressé, sans se rechercher dans la douceur de cet amour, qu'il aime par-dessus tous ses dons, et quand même elle n'aurait rien reçu de lui, et qui désire du bien à l'objet aimé. Or, comment désirer et vouloir effectivement du bien à Dieu, si ce n'est en accomplissant sa volonté? Donc cette âme doit s'y livrer pleinement, éperdument, jusqu'à ne plus vouloir autre chose que ce que Dieu veut. Une louange de gloire est une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse de l'Esprit-Saint afin qu'il en fasse sortir des harmonies divines. Elle sait que la souffrance est une corde qui produit des sons plus beaux encore. Aussi, elle aime la voir à son instrument afin de remuer plus délicieusement le cœur de son Dieu. Voilà. Alors, à travers ces saints qui ont... Vous savez, la souffrance, on ne la recherche pas. Je vous dis, ça serait malsain. Mais lorsque Dieu nous est présentée, ne cherchons pas les causes. Bon, évidemment, si on se casse une jambe qu'on a glissée, c'est bien parce qu'on a glissé. Mais ces souffrances intérieures, on n'en connaît pas la cause, qui peuvent venir par des souffrances extérieures, hein, puisque dans ce pèlerinage, il y a beaucoup d'entre vous qui ont vécu des départs d'enfants de façon dramatique. Ne cherchons pas la cause, mais cherchons le Seigneur. La seule issue se trouve dans le Seigneur, et cette croix qui est présentée peut devenir, malgré la souffrance qui restera toujours, la source, puisqu'on y rencontre le Seigneur, de joie profonde, de joie même très profonde, et dans lesquelles on découvre, puisqu'il n'y a plus que de l'appui en Jésus-Christ, on découvre la profondeur de son amour, de son amour oblatif, et à travers lequel aussi nous ne pouvons que remercier le Seigneur à travers tout ce qu'il nous a fait vivre, parce que cela nous a dégagé de certaines conceptions de l'amour que nous avions pour les autres, et parfois d'amour, reconnaissons-le, qui sont très possessifs. On ne peut pas être reconnaissant
de la perte de l'enfant.
du départ de l'enfant, donc il sera toujours une souffrance. Mais le Seigneur ne nous laisse pas dans cette souffrance uniquement. Ben, on ne peut pas le remercier pour ça, mais il nous fait découvrir des espaces si nous ne replions pas sur nous-mêmes. Que jamais nous n'aurions recherché. Mais c'est ce manque affectif qui libère dans un autre espace, qui permet de découvrir des choses qui sont inaltérables, parce qu'elles sont déjà un début, on pourrait dire, de vie éternelle. Ben, je pense que les personnes qui sont passées à travers, on en discutait encore avec Marie-Lise à l'instant, puisqu'elle a perdu sa fille dans une avalanche. Mais voilà, quoi, personne ne voudrait ça, tout le monde voudrait que la fille soit là, mais en même temps, ça a dégagé, elle me disait elle-même, des choses absolument insoupçonnées. Le Seigneur ne nous laisse pas dans l'affliction pure. Il nous ouvre un espace qui est le sien, qui est celui aussi de la Vierge Marie, qui a le glaive qui est transpercé, qui transperce l'âme au pied de la croix. On pourrait dire que les souffrances de l'âme, parfois, sont bien plus douloureuses que beaucoup de souffrances physiques. Beaucoup de souffrances physiques, peut-être pas les souffrances conduisant à la mort, puisqu'elles sont insupportables, mais beaucoup de souffrances physiques ne sont rien par rapport aux souffrances intérieures. Mais le Seigneur ne nous laisse pas. Il nous ouvre des espaces insoupçonnés, des espaces qui sont liés à sa miséricorde et qui fait que la personne comprend mieux ce mystère de la rédemption. Il comprend aussi et est invité à y rentrer dedans. Vous voyez, la conversion pousse loin et elle conduit à cette assimilation au Christ. Voilà, et cet après-midi, nous terminerons donc la conversion avec Marie, avant d'arriver sur l'autre.